Merci Madame la Présidente. Es un gusto de ser en diálogo con ustedes hoy y voy a continuar en francés. Je vais vous poser des questions en matière d'éducation, notamment en matière de petite enfance et pour toutes les questions de mesures spéciales de protection. Donc ce sont des thèmes relativement vastes. Et donc, je vais vous demander de rester avec moi et d'être attentif parce qu'il y a un nombre très important de questions que je souhaite vous poser pour éclairer les éléments qui ne figurent pas ou qui ne sont pas de manière particulièrement claire dans le rapport. D'abord, j'aimerais dire que votre rapport initial nous fournit toute une série d'informations, mais effectivement, il a déjà 3 ans. Les informations sont arrêtées il y a 3 ans et donc les réponses aux questions supplémentaires nous ont été utiles pour voir quelle est l'évolution de la situation. Vous avez aussi pointé toute une série d'éléments qui sont importants dans votre discours d'introduction et je vous en remercie. J'aimerais commencer par la question du budget pour l'éducation. On sait effectivement que vous avez été confronté à des crises multiples qui ont mis en cause l'équilibre économique du pays, mais plusieurs sources semblent montrer effectivement que ces dernières années, depuis plusieurs années, le budget pour l'éducation est en diminution, alors que, sauf erreur de ma part, le nombre d'enfants qui doivent être scolarisés est en augmentation. Et donc, j'aimerais avoir plus de clarté sur l'évolution du budget et, si possible, avoir une vision sur le budget pour l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire pour voir quelles sont les évolutions et avoir une idée des projections envisagées en la matière. Lié au budget, l'état des écoles est décrit comme étant particulièrement problématique. Les rapports ne s'en cachent pas, mais les chiffres sont particulièrement inquiétants. De nombreuses écoles ont été détruites, 8000 écoles n'ont pas d'électricité. Et donc, est-ce qu'il y a un programme de réhabilitation des infrastructures pour permettre que les enfants puissent être éduqués dans un contexte adéquat ? Si vous pouviez aussi clarifier la question de l'âge de l'obligation scolaire, j'ai compris qu'il y a un élargissement de l'obligation scolaire, j'ai cru comprendre que c'est à partir de 5 ans, pour une période de 13 ans au total, mais j'aimerais bien que vous éclaircissiez cela, et est-ce que cela veut dire que les enfants doivent suivre une forme d'enseignement, une forme d'éducation pendant toute cette durée-là ? La gratuité de l'enseignement est inscrite dans les textes. Comme c'est souvent le cas, mais on voit dans différents rapports qu'il y a malgré tout des coûts et on sait qu'il y a des coûts souvent cachés pour l'accès à l'éducation, d'autres types de coûts que les parents doivent supporter. Et quand on voit, et je vais y arriver, la question du décrochage scolaire, on sait que la pauvreté et faire face aux coûts de l'éducation est un des éléments qui peut empêcher un certain nombre d'enfants d'aller à l'école. J'y arrive, la question du décrochage et de l'abandon scolaire. Les nombres sont vraiment préoccupants, les statistiques sont élevées. On connaît une série de causes, c'est lié à la violence, c'est lié aux gangs, c'est lié à la pauvreté, c'est lié à l'infrastructure ou le manque d'infrastructure. Et là aussi, donc, la question de savoir quels sont les plans qui sont mis en œuvre pour essayer de faire en sorte de scolariser le maximum d'enfants et leur permettre aussi, pour ceux qui ont décroché, de rattraper leur retard et de pouvoir être réintégrés dans leur scolarité. Ma collègue a évoqué la question des jeunes filles enceintes ou des jeunes filles mères. Est-ce qu'il y a un programme particulier pour les soutenir dans leur scolarisation, garantir qu'elles puissent continuer leur scolarisation et quand elles ont un enfant, les accompagner dans le fait de devoir s'occuper de l'enfant tout en pouvant poursuivre sa scolarité. Les enfants déplacés internes, donc la problématique des enfants déplacés internes et des personnes déplacées internes est aussi une problématique importante. Vous l'avez souligné aussi dans votre discours d'introduction en parlant de politiques qui sont en train d'être mises en place. J'aimerais en savoir un petit peu plus en termes de quelles sont ces politiques particulières. Mais on sait que toutes ces personnes déplacées internes, d'abord, ont plutôt tendance à se cacher, ne sont pas nécessairement visibles parce qu'elles veulent se protéger. Mais elles n'ont plus accès à toute une série de services, y compris la scolarité, mais toute une série d'autres services. Là aussi, quel est le programme ou le plan pour essayer de leur permettre de les aider et les soutenir dans le contexte actuel, mais tenter de leur permettre de réintégrer leur lieu de vie dans des conditions évidemment de sécurité. La petite enfance, vous avez pointé dans votre discours d'introduction que c'est une des priorités, que c'est un élément particulièrement important. Pourtant, je n'ai vu que très peu de choses dans les rapports. Et donc, j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations sur quelles sont les politiques en place, les priorités, quelles sont les aides et les soutiens qui sont accordés aux familles. Et on sait que la petite enfance est une période cruciale de la vie et le soutenir les parents et les familles dans ce contexte-là est un élément particulièrement important. En matière d'éducation toujours, l'éducation aux droits de l'homme dans les écoles, est-ce que les droits humains font partie du programme d'éducation, l'égalité des genres, la non-discrimination, l'éducation aux droits de l'enfant, est-ce que ça fait partie du curriculum scolaire et de quelle manière ces informations sont-elles communiquées aux enfants? La question du jeu et des loisirs, ici aussi, vous l'avez pointé leur importance. Vous avez créé un certain nombre de lieux où il y a un accès au jeu et aux loisirs dans des conditions de sécurité, puisque un des problèmes est évidemment l'insécurité généralisée dans de nombreuses parties du pays qui font que les enfants ne sortent pas et les parents n'osent pas d'ailleurs permettre à leurs enfants de sortir. Et donc, évidemment, l'accès aux loisirs est lié à la question de la sécurité, mais avec votre programme, il me semble que vous allez y répondre, dans quelle mesure ce programme va être généralisé dans le pays. J'en viens à la question des migrants et des réfugiés. La procédure de reconnaissance du statut de réfugié, et en particulier de la protection qui est accordée aux enfants, ne me paraît pas clair pour le moment. Donc si vous pouviez m'éclairer sur cette question, et en particulier la question de l'identification des enfants non accompagnés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être accompagnés d'un adulte, mais on sait que ce n'est pas toujours quelqu'un qui a une responsabilité sur l'enfant ou qui veut du bien à l'enfant, et la question de l'évaluation de l'âge. Vous avez également parlé de la question des migrations avec plusieurs dimensions différentes. Le pays est un pays d'accueil, de transit, mais aussi un pays de départ et puis un pays de retour des enfants migrants. On a pu constater que le retour se fait souvent dans des conditions relativement difficiles. C'est une expulsion forcée, sans expulsion forcée.